aujourd'hui à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 9 avril 2019. Nathalie Barge et Abdourahman Dia à la présentation. Voici les titres.
En Algérie, Abdelkader Ben Salah devient président par intérim après la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
Au Nigeria, fin de l'ultimatum aux étrangers pour quitter les sites miniers dans l'état de Zamfara.
Cameroun, 17 personnes interpellées en marge d'une audience sur la demande de libération de l'opposant Maurice Kamto.
Au Soudan, la police appelle un transfert pacifique du pouvoir et ordonne à ses forces de ne pas intervenir contre les manifestants.
Élection législative cruciale en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou brigue un cinquième mandat.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports.
En Algérie, Abdelkader Ben Salah a été nommé président par intérim par le Parlement une semaine après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika. La rue rejette cette nomination. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
« Je vais travailler à concrétiser les intérêts du peuple », a déclaré le nouveau chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, 77 ans. Il avait auparavant occupé les fonctions, entre autres, de député, d'ambassadeur, de sénateur et a présidé les deux chambres du Parlement. Il a accédé à la présidence du Conseil de la Nation 3 ans après l'arrivée de M. Bouteflika au pouvoir. Les partis d'opposition ont boycotté la réunion du Parlement, refusant de valider cette nomination. Les manifestants poursuivent leur contestation, réclamant le départ du système. Des milliers d'étudiants ont crié « Dégage Ben Salah » et « Système dégage ». La police a tiré des grenades lacrymogènes et fait usage de canons à eau pour les disperser. Après plus d'un mois d'une contestation massive à travers le pays, M. Bouteflika, 82 ans, a démissionné le 2 avril après 20 ans de pouvoir sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée. Comme le prévoit la Constitution, le président du Conseil de la Nation assumera les fonctions de chef de l'État pour une durée de 90 jours. Une élection présidentielle à laquelle M. Ben Salah ne pourra pas être candidat doit être organisée durant cette période.
Un attentat à la bombe dans le Sinaï en Égypte a fait 7 morts. Les victimes sont 4 policiers et 3 civils. L'attentat a été perpétré par un jeune kamikaze, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.
Conflit inter-libyen, les vols vont reprendre ce soir à l'aéroport de la capitale qui a été bombardé hier. C'est ce qu'a indiqué la compagnie nationale Libyan Airlines, qui précise toutefois que seuls les vols de nuit seront concernés pour le moment. L'aéroport de Mitiga, près de Tripoli, est le seul encore opérationnel dans la capitale. Il a fermé hier après avoir été touché par une frappe aérienne des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar.
Au Cameroun, au moins 17 personnes ont été interpellées à Yaoundé en marge d'une audience de la cour d'appel sur une demande de libération de l'opposant Maurice Kamto et de ses alliés. C'est ce qu'a fait savoir à VO Afrique Maître Emmanuel Sim, 3e vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti de M. Kamto. Des militants avaient bravé un imposant dispositif de sécurité pour le soutenir. L'opposant a refusé de quitter la prison de Yaoundé, a fait savoir son porte-parole sur Facebook.
Au Nigeria, c'est aujourd'hui que prend fin l'ultimatum du gouvernement fédéral qui a donné 48 heures dimanche aux étrangers pour quitter les sites miniers dans l'état de Zamfara, dans le nord-est du pays. Les détails avec Gilbert Tamba, le correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Le gouvernement affirme avoir annoncé la mesure après que les enquêtes menées sur le terrain ont établi un lien étroit entre les activités des bandits armés et des mineurs illégaux dans l'état de Zamfara. Abuja a également annoncé une suspension immédiate des activités minières dans d'autres états touchés par des violences. Les autorités fédérales ont averti que les exploitants miniers qui ne respecteront pas l'ordre du gouvernement verraient leur licence révoquée. Cependant, le gouvernement n'a fourni aucune clarification quant au lien entre la présence des étrangers et l'escalade de la violence dans le nord-est du Nigeria. On ne sait pas non plus qui sont ces étrangers ni combien ils sont. Certaines zones de l'état des Zamfara sont depuis plusieurs mois envahies par des bandits armés, des voleurs de bétail et des ravisseurs. Les habitants de certains villages ont dû fuir pour se réfugier dans des endroits sécurisés. Le président Muhammad Buhari a ordonné le déploiement de centaines de soldats dans l'état en juin dernier, mais leur présence n'a apparemment pas permis de réduire le nombre de meurtres. Dans le but de sécuriser leur communauté, certains habitants ont formé des groupes de vigilance locaux. Selon les autorités des Zamfara, plus de 50 membres des milices locales ont été tués lors des affrontements avec des bandits la semaine dernière.
Les manifestations anti-El-Béchir persistent au Soudan. Des milliers de personnes ont appelé l'armée à rejoindre leur mouvement. La police, elle, demande à ses forces de ne pas intervenir contre les manifestants réunis devant le QG de l'armée. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Bravant l'interdiction de manifester, des milliers d'hommes et de femmes ont campé une nouvelle nuit devant le QG de l'armée, qui sert aussi de résidence pour M. El-Béchir. Le rassemblement massif d'aujourd'hui a été maillé par les vaines tentatives des forces de sécurité de déloger les manifestants face à l'armée qui a tiré en l'air. Scandant liberté, liberté, ils ont appelé l'institution militaire, qui n'a pas participé à la répression des manifestations contrairement aux forces de sécurité, à soutenir le mouvement populaire et à discuter d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Béchir. Au moins 38 manifestants ont été tués depuis le début de la contestation, dont 7 samedi selon les autorités. Jusque-là restées discrètes, les ambassades de Khartoum, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Norvège ont appelé le pouvoir soudanais à répondre aux revendications des contestataires d'une façon sérieuse et crédible et à mettre en place un plan de transition politique et crédible.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Élections législatives en Israël ce mardi, le principal parti arabe a déposé une plainte auprès de la commission électorale dénonçant l'utilisation de caméras par des militants du Likoud, le parti du Premier ministre, dans des bureaux de vote de secteurs majoritairement arabes. Le point avec Irénée Armanoumbo.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait face à l'ancien chef de l'armée Benny Gantz. Les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages qui leur accordent un nombre similaire de sièges à Knesset. Dans un tel scénario, Benjamin Netanyahou décrocherait son 5e mandat en coalition avec de petits partis alliés de la droite. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des militants de son parti, le Likoud, participant au contrôle des opérations de vote et interpellés par d'autres observateurs parce qu'ils cachent des caméras sur eux. L'Alliance arabe Hadash-Tal a indiqué avoir déposé une plainte en urgence pour demander que ces caméras illégales, selon elle, soient retirées immédiatement. Le Likoud cherche à peser sur le déroulement des élections en encourageant les caméras cachées dans les communautés arabes, a dénoncé Ahmed Tibi, l'un des dirigeants de l'Alliance arabe. Il devrait y avoir partout des caméras non visibles, a soutenu M. Netanyahou dans un bureau de vote de Jérusalem. La commission électorale a confirmé qu'il était illégal de filmer des électeurs alors qu'ils glissent leur bulletin dans l'urne.
En Syrie, 13 personnes ont été tuées dans un double attentat à la bombe à Raqqa, ancienne capitale des djihadistes. Selon une ONG, 9 civils et 4 combattants FDS sont morts dans l'explosion d'un engin et d'une voiture piégée dans une rue très fréquentée de cette ville du Nord, indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Le bilan de l'attentat suicide des talibans contre un convoi militaire américain en Afghanistan hier a été revu à la baisse par la mission de l'OTAN. 3 marines ont été tués près de la base aérienne de Bagram, mais le sous-traitant afghan a survécu à ses blessures, a indiqué la coalition.
Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a confirmé qu'il serait en mesure de rendre public d'ici une semaine le rapport du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. Ses équipes sont en train de retirer les informations qui pourraient compromettre d'autres enquêtes, dévoiler des sources confidentielles ou nuire à la réputation d'acteurs périphériques, a-t-il expliqué lors d'une audition au Congrès.
Et Vladimir Poutine a assuré ce mardi avoir su depuis le départ que l'enquête blanchirait Donald Trump. La Russie ne s'est ingérée dans aucune élection aux États-Unis. Personne ne le savait mieux que nous, a insisté le président russe lors d'un forum à Saint-Pétersbourg. Le rapport conclut à une volonté de Moscou d'influencer le vote, mais pas à une entente entre Donald Trump et la Russie.
La chancelière allemande Angela Merkel a jugé possible un report jusqu'à début 2020 du Brexit. Après avoir reçu à Berlin la première ministre britannique Theresa May, de son côté la France n'est pas opposée à un report du Brexit, mais un délai d'un an évoqué à Bruxelles paraît trop long, a indiqué l'Elysée à la veille d'un sommet européen. Paris n'est pas fermé à construire une autre solution que le no deal, mais avec certaines limites et et pas à tout prix, a précisé la présidence avant une rencontre entre Emmanuel Macron et Theresa May.
Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a qui des élus démocrates demandent de fournir les déclarations d'impôts du président Trump, a affirmé que la requête était en cours d'examen et qu'il n'en avait pas discuté avec la Maison-Blanche devant une sous-commission financière de la Chambre des représentants. Il a précisé donc une conversation avec l'avocat de la Maison-Blanche.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et l'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Salani.
Au premier trimestre de cette année, l'Éthiopie a connu une hausse de l'inflation de 11,2% contre 10,9% au cours de la même période de l'an dernier, selon le Bureau des statistiques. Cette inflation est principalement due à l'augmentation du prix des céréales qui s'est répercutée sur les produits alimentaires. À cela s'est rajoutée celle des produits non alimentaires tels que la location, les transports, les combustibles comme le bois et le charbon de bois. Hier, les prix du pétrole ont grimpé jusqu'à 2%, atteignant leur plus haut niveau sur 5 ans. Cette hausse est due aux prévisions de resserrement de l'offre globale liées à la reprise des combats en Libye et des réductions en Iran et au Venezuela. Selon l'agence Reuters, les contrats à terme pour le Brent ont augmenté de 76 cents, soit 1,1%, pour s'établir à 71,10 $ le baril. Ici, aux États-Unis, les prix à terme du West Texas Intermediate ont gagné 2,1%, soit 1,32 $, pour se fixer à 64,40 $ le baril. Pour terminer cette minute éco, Seed Star World, une plateforme suisse, va lancer d'ici la fin de l'année un nouveau fonds de capital risque de 100 millions de dollars en faveur des startups africaines. L'agence Ecofin publie que l'objectif est de soutenir des entreprises naissantes sur le continent et jusqu'à 40 startups pourraient en bénéficier. La stratégie consistera à investir entre 250 000 et 5 millions de dollars dans de nouvelles entreprises qui afficheront des promesses en termes d'innovation, quel que soit le secteur ou le pays.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Tottenham fera son Serge Aurier en Ligue des Champions ce soir.
Oui, blessé aux ischios jambiers lors de la dernière trêve internationale avec la sélection de Côte d'Ivoire, le latéral ivoirien ne s'est pas encore remis et n'a pas été convoqué pour ce quart de finale aller face à Manchester City. Habitué des matchs européens avec les Spurs, Serge Aurier a débuté 5 des 8 matchs du club londonien en Ligue des Champions. En revanche, le Kenyan Victor Wanyama devra débuter sur le banc, tout comme l'Algérien Riyad Mahrez qui devra se contenter d'un statut de remplaçant côté Manchester City.
Dans l'autre quart de finale, Liverpool affronte le FC Porto.
Oui, la saison dernière, Liverpool a balayé les Portugais 5-0 en huitième de finale aller. Grâce à leur triplette de buteurs, l'international sénégalais Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah et le Brésilien Roberto Firmino. Muet pendant 8 matchs, l'attaquant égyptien a débloqué son compteur but vendredi dernier contre Southampton. En face, le FC Porto pourra compter sur son homme en forme du moment, le Malien Moussa Mariga, grand artisan de la victoire contre l'AS Rome au tour précédent, tandis que l'Algérien Yassine Brahimi devra être remplaçant. Le Cameroun Aboubakar Vincent reste blessé.
Roger Milla veut un stade à son nom.
Oui, l'ancien attaquant emblématique des Lions Indomptables du Cameroun a émis le vœu que le nouveau stade en construction à Japoma, dans la banlieue de Douala, puisse être baptisé en son nom. Le peuple de Japoma a écrit au Premier ministre et au chef de l'État aussi pour que le stade porte mon nom, a déclaré le vieux Lion sur la chaîne télévisuelle locale CRTV. Âgé de 66 ans, Roger Milla a porté haut les couleurs de son pays, dont il est notamment double champion d'Afrique en 1984 et 1988, sans oublier une mémorable patrie. Participation à la Coupe du Monde 1990 en Italie.
Pelé est de retour au Brésil.
Oui, le roi du football est arrivé à Sao Paulo en provenance de Paris, où il a été hospitalisé 6 jours en raison d'une infection urinaire. Pelé, 78 ans, est sorti d'un terminal de l'aéroport dans un fauteuil roulant. Encore une fois, grâce à Dieu, tout s'est bien passé, je suis vivant. Longue vie au Brésil, a-t-il déclaré. Il avait été hospitalisé le 3 avril dernier, après une rencontre à Paris, avec le jeune champion du monde français Kylian Mbappé. Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d'une infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge et Abdourahman Dir, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
On démarre par l'Algérie, où le Parlement a désigné Abdelkader Ben Salah comme président par intérim pour une durée maximale de 90 jours. Cette décision, qui ne fait pas l'unanimité, intervient une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Quelques milliers d'étudiants ont encore manifesté aujourd'hui dans les rues d'Alger pour comprendre pourquoi Raïssa Girondin a joint Zine Cherfaoui. Il est rédacteur en chef du service international d'El Watan.
Comme il fallait s'y attendre, la population a condamné la désignation de M. Ben Salah comme président par intérim. Depuis plus de 7 semaines maintenant, on demande la mise en place d'une transition qui serait gérée par des personnalités non impliquées dans la gestion des affaires du pays ces dernières années. Les étudiants ont manifesté à Alger ainsi que dans de nombreuses autres grandes villes du pays pour dire non à la solution de sortie de crise proposée par le pouvoir.
Abdelkader Ben Salah est donc propulsé au sommet de l'État en étant président par intérim pour une période de 90 jours. Quelle sera concrètement sa mission ?
Le président par intérim aura à gérer les affaires courantes effectivement pendant 90 jours, à l'issue desquelles il sera organisé une élection présidentielle. Et ici l'opinion, ainsi que les partis politiques d'opposition, pensent qu'il n'est pas possible d'organiser une élection présidentielle qui serait chapeautée par l'actuelle commission des élections, auquel les gens reprochent d'être partial, par exemple. Les gens disent qu'il n'est pas possible aussi d'aller à une élection présidentielle avec l'actuelle constitution.
Qu'est-il reproché à l'actuelle constitution ?
Le problème, c'est que la constitution actuelle accorde des pouvoirs immenses au président de la République. Et nécessaire serait donner un chèque en blanc au prochain président de la République, risque que la population ne veut pas prendre. Donc les gens veulent que les réformes se fassent avant tout scrutin.
Zine Cherfaoui, un mot sur les manifestations qui se poursuivent dans le pays ?
Bon, il y a eu quand même des petites... La police a un peu réprimé aujourd'hui la marche des étudiants, mais ils ont résisté, ils ont quand même continué à occuper la rue. Bon, la répression s'est faite à coups de canons à eau et de gaz lacrymogène. On ne dénombre pas de blessés, mais bon, les gens redoutent que le pouvoir cherche en fait à situer la fin de la partie.
C'était Zine Cherfaoui, rédacteur en chef du service international d'El Watan, joint à Alger.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Persistance des manifestations anti-El-Béchir qui ont débuté il y a près de 4 mois. Ce mardi, des milliers de personnes à Khartoum ont appelé l'armée à rejoindre leur mouvement. Les protestataires étaient réunis devant son quartier général pour le 4e jour consécutif. Peuvent-ils faire céder Omar El-Béchir ? Voici un élément de réponse avec Gérard Prunier, chercheur spécialisé sur l'Afrique orientale.
Oui, probablement. On peut déjà considérer que la page Omar El-Béchir est tournée. Mais ça n'est que le début des problèmes, pas la fin.
C'est-à-dire ?
Nous avons un gouvernement de type autoritaire, totalitaire, qui est au pouvoir depuis 30 ans. Si un monsieur s'en va, un système ne disparaît pas pour autant.
Des milliers de Soudanais ont appelé aujourd'hui l'armée à rejoindre leur mouvement. Est-ce qu'elle pourrait se retourner contre le régime ?
Oui, bien sûr. C'est ce qui s'est passé 2 fois, puisque les Soudanais sont coutumiers du fait qu'ils n'aiment pas les dictatures. Ils en ont déjà renversé une en 1964 et une autre en 1985. Bon, Béchir s'est montré plus coriace que les autres. Mais à chaque fois, c'est le même scénario. C'est un mouvement civil, non armé. Et puis, à un certain moment, l'armée arbitre la situation en rejoignant les révoltés.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège estiment que les autorités soudanaises doivent proposer un plan de transition politique crédible. Ce scénario est-il envisageable ?
Non. Parce que, bien sûr, ils cherchent à pousser à ce que le gouvernement change sans un certain niveau de violence. Mais on ne voit pas du tout le groupe islamo-business, parce que ce ne sont pas des islamistes fanatiques, c'est juste un marqueur politique. Par contre, c'est très lié à une exploitation économique très avancée. On ne les voit pas tout d'un coup dire « bon, ben ça va, c'est fini, merci beaucoup, au revoir » et négocier quelque chose de crédible.
Est-ce que la stabilité du pays, la sécurité des Soudanais est en jeu ?
Oui, bien sûr. Et le pays est fragile. Il est formé de l'agrégat de tout un ensemble de groupes ethniques et culturels et linguistiques différents. Ce gouvernement n'est certainement pas sympathique, il est d'une brutalité inouïe, mais en même temps, il empêche le pays d'éclater. Or, on a un exemple pas très loin qui est celui de la Somalie. Quand un pays éclate comme ça et qu'on n'est pas capable d'opérer une transition, c'est pendant les 20 ou 30 prochaines années qu'on essaye d'éponger les dégâts.
C'était l'historien Gérard Prunier, spécialiste de l'Afrique de l'Est.
Au Rwanda, les Gachacha ont été constitués de personnes élues pour leur bonne réputation qui ont suivi une formation juridique de base. Après le génocide, ces tribunaux traditionnels ont permis de juger un très grand nombre de personnes. Les Gachacha sont vus comme un moyen de recherche de la vérité et contribuent à la réconciliation nationale. Notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, s'est entretenu avec Françoise Gahamani, ancienne présidente du tribunal Gachacha.
Je m'appelle Françoise Gahamani. J'étais la présidente du tribunal Gachacha de secteur Kakiru dans Kigali. Les Gachacha, on a d'abord fait les élections des femmes et hommes qu'on appelait les hommes et les femmes intègres pour être juges de Gachacha. Au niveau de la cellule, on était à 8 et 2 suppléants. On a commencé par mettre ensemble les informations, c'est-à-dire d'abord les noms des personnes qui ont été tuées, peut-être même les noms de ceux qui les ont tués, les personnes qui ont été tuées dans la cellule, qui sont venues d'ailleurs mais ont été tuées dans la cellule, les hommes de la cellule qui ont été tués en dehors de la cellule. Toutes ces informations devaient être compilées, mais mises ensemble. Dans tout le pays, je crois que c'était dans les 2 millions de procès.
Quel a été le procès le plus difficile dont vous vous rappelez encore?
Pour moi, le procès le plus difficile, c'était le procès de viol. Parce que la pauvre dame qui était violée, c'était sa parole contre 10 autres personnes qui étaient là. Il y avait le présumé violeur qui jurait que c'était pas vrai, et les voisins qui devaient l'avoir vu revenir, qui juraient ne pas l'avoir vu. Ça, c'était dur. Et comme c'était à huis clos, ce n'était pas facile.
Et ça s'est terminé comment? Le violeur présumé est reparti libre ou bien ça?
Non, il n'était pas libre. On l'a inculpé parce qu'au fur et à mesure qu'on avait des preuves, on l'a inculpé.
Maintenant, comment ça s'est passé pour les autres? Par exemple, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Ceux qui ont reconnu avoir tué leur voisin, comment ça s'est passé?
On avait des prévenus qui étaient donc en prison. Ils étaient amenés là-bas sur le lieu du jugement. On commençait par lui dire ce qu'on avait dans le dossier, qu'on l'accusait d'avoir tué quelqu'un. On appelait les témoins. Il y avait les témoins à charge et les témoins à décharge. Alors, après avoir entendu tout le monde, on allait délibérer à huis clos, les 8 juges. On allait délibérer. Des fois, c'était facile. Des fois, c'était difficile parce qu'il y en a qui demandaient d'autres preuves. Alors, on avait dû parfois ajourner le procès pour avoir d'autres témoins. Et si on ne se mettait pas d'accord, alors on procédait à l'élection, tout simplement.
Est-ce que par ce processus, vous pensez que beaucoup de victimes ont été satisfaites de ce qui s'est passé avec les personnes qu'ils ou elles accusaient?
Oui, je crois oui. Parce que l'objectif des Gachacha, surtout, c'était, à part la justice, c'était aussi la réconciliation. Pour moi, on a su comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont su comment leurs proches ont été tués ou même leurs proches ont été enterrés. La justice, il y en a qui ont été punis. Il y avait différentes punitions, soit 19 ans d'emprisonnement ou bien à perpétuité ou bien les travaux d'intérêt général. Pour moi, je crois que la justice a été rendue, sauf ceux qui courent encore, qu'on n'a pas encore pu retrouver.
Maintenant, les Gachacha, c'est fini. Est-ce qu'il vous arrive de voir cohabiter dans le quartier d'anciens bourreaux et leurs anciennes victimes?
Oui, dans le quartier ici. Moi, j'ai pratiquement commencé tout le Gachacha. J'ai vu les personnes qu'on a accusées. Il y en a que je vois encore qui circulent. Il y en a que je vois qui ont perdu leur famille, leurs proches et qui sont là dans le quartier. Tout le monde cohabite, tout le monde vit ensemble normalement.
Françoise Gahamani, ancienne présidente du tribunal Gachacha à Kigali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
La violence xénophobe est une réalité en Afrique du Sud et semble empirer à l'approche des élections. La semaine dernière, une foule dans la ville côtière de Durban a attaqué un groupe de Malawites, tuant au moins deux personnes. Mais pour trois frères Malawites vivant à Johannesburg, la violence est moins inquiétante que la perspective de la faim et du chômage. Anita Powell les a rencontrés à Johannesburg. Voici son reportage que nous présente Irénée Herman Ungbo.
Kenneth Nkalipi était gérant d'une ferme au Malawi. Mais la récession économique dans son pays d'origine l'a contraint à se déplacer vers l'Afrique du Sud en quête d'une vie meilleure.
Il n'y a pas d'emploi au Malawi. Nous sommes de simples agriculteurs. Nous investissons de l'argent cette année, peut-être pour en gagner l'année prochaine. C'est donc un problème pour nous de trouver de l'argent. C'est pourquoi nous venons ici.
L'Afrique du Sud est la deuxième économie du continent derrière le Nigeria. Elle est aussi un pôle d'attraction pour les migrations intra-africaines. Mais Kalipi indique que ce pays, qui affiche un taux de chômage de 26%, ne lui offre pas du tout un environnement de vie favorable depuis son arrivée il y a un an.
Vous prenez nos emplois ici pendant que nous, autochtones, on en a pas. Pourquoi faites-vous cela? Vous travaillez ici et vous profitez correctement. Nous ne voyageons pas non plus.
Le gouvernement sud-africain a cependant pris des mesures pour freiner la recrudescence de la violence xénophobe. Des militants des droits de l'homme rejettent dans le même temps sa lecture des récentes agressions dans le pays qu'il attribue à des criminels s'attaquant à des personnes vulnérables.
Au cours des dernières semaines, nous avons encore assisté à une recrudescence de la violence xénophobe en Afrique du Sud, chose que nous avions l'habitude de voir, particulièrement à l'approche des élections, période où les dirigeants politiques et chefs traditionnels ont tendance à utiliser un langage qui attise les sentiments xénophobes au sein de la population sud-africaine.
Le gouvernement du Malawi a annoncé qu'il rapatrierait plus de 100 citoyens touchés par les violences de Durban qui souhaitent rentrer chez eux. Mais la violence ne dissuade pas la logique migratoire. La famille Nkalipi en donne la preuve. Deux de ses frères habitent déjà ici et malgré les nombreuses violences, Emmanuel Nkalipi exhorte leurs jeunes frères au Malawi à se joindre à eux.
Je suis ici à la recherche d'argent. Donc je dirai à mon frère d'être prudent parce que c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique.
Son frère David, arrivé il y a quelques jours à peine, est impatient de travailler, mais aussi inquiet.
J'ai la trouille, j'ai peur pour ma vie.
Seules deux possibilités s'offrent à ses trois frères, soit crever de faim au Malawi, soit vivre dans un environnement dangereux comme celui de Durban. Entre l'incivisme et la mort, le choix est aisé.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Cédric Franklin, présentation Nathalie Barge et Abdourahman Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.
Afrique.